Radio Okapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, la tension est montée d'un cran. C'est lundi à l'université de Kinshasa Unikin où les activités sont paralysées. Les étudiants manifestent pour protester contre le meurtre de leur collègue de deuxième graduat samedi dernier par la police. Au Kasaï central, le gouvernement provincial prend des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est suite à l'alerte de la division de la santé publique sur la montée des cas positifs. Notre invité, c'est le responsable de l'association des psychologues pour le bien-être de la population de Goma. Jacques Nsengiyumva parle des conseils en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus où la population de Goma vit dans l'angoisse. Madame, Messieurs, bonjour. Vive tension ce lundi à l'université de Kinshasa, Unikin. Toutes les activités sont suspendues. Les étudiants manifestent pour protester contre le meurtre de leur collègue tué samedi dernier par la police. Cet étudiant de deuxième graduat sciences de l'information et de la communication était en tournage dans le cadre d'un travail pratique du cours de cinéma au niveau de Bel Air dans la commune de Mongafula. Ces étudiants exigent la tenue d'un procès en flagrance contre tous les auteurs du drame. Michel Kifindangoy.
Moi, je te l'a.
Cette étudiante inconsolable était avec la victime au moment où elle était tuée samedi par un policier. Ce matin, tout est parti devant la faculté des lettres vers 8h. Les étudiants révoltés et prêts à se déverser dans la rue protestent contre le meurtre de leurs camarades. Témoignage de l'étudiant Jonas Champa.
Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour exiger que justice soit trouvée. Cet élément de la police qui a commis ces actes soit puni par la force de la loi. Il n'a pas été tué à cause du cache-nez, mais ça a été plutôt à cause de l'argent exigé par la police.
La victime Honoré Chamakouete est décédée à moins de 24 ans. Tué à bout portant par un policier alors qu'il tournait un film dans le cadre du cours de l'initiation au cinéma, ajoute l'assistant Bill Lindou.
L'étudiant étant en train de faire son TP, il a dit « j'ai mon cache-nez, mais je vais le porter après que j'ai fini ». Aussi, les étudiants, dans le cadre de ce travail pratique, n'avaient pas un document, mais nous savons quand même que filmer à l'espace public n'est pas interdit.
Une forte présence policière est déployée vers toutes les entrées de l'université de Kinshasa afin de contenir les manifestants.
Le meurtre de cet étudiant de l'Unikin n'est pas le premier cas tué par la police nationale suite au port de masque. Le député Ados Ndombassi, qui dépose une question orale avec débat ce lundi à l'Assemblée nationale, dénonce cette bavure policière. Pour lui, depuis le début de la pandémie du coronavirus, c'est pour la deuxième fois que la police a tué pour le même motif. Ados Ndombassi au micro de Michel Kifinangoy.
Le 10 juillet 2021, dans la commune de Makala, un jeune homme au nom de Ngunda Mayasi a été lâchement tué par un élément de la police. Le samedi 24 juillet, le policier Matondo Mwalimu vient d'abattre froidement un jeune étudiant en communication G2 à l'Unikin au nom d'Honoré Chama. Vu ses bavures policières à répétition dans la ville de Kinshasa, nous allons déposer ce lundi 26 juillet 2021 une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Le constat à ce jour est que la police est devenue le lieu de refuge de bandits de grand chemin et de criminels. Sous d'autres cieux, quand vous croisez un policier, vous vous sentez en sécurité. Mais ici à Kinshasa, la police est synonyme de tracasserie et d'actes criminels. Que le vice-premier ministre de l'Intérieur nous dise quelle est la politique de recrutement du policier moyen en République démocratique du Congo. Quels sont les critères du recrutement de nos policiers? Pourquoi nos policiers congolais doivent circuler avec des armes de guerre Kalachnikov en pleine capitale?
Santé à présent. Au Kasaï central, le gouvernement provincial prend des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est suite à l'alerte de la division de la santé sur la montée de cas positifs. L'arrêté rendu public ce week-end par le gouverneur intérimaire impose le port obligatoire de masques dans les lieux publics. Explication avec vous, François Kadima.
La propagation rapide avec le cumul des 70 cas atteints ce mois de juillet pousse le gouverneur intérimaire du Kasaï central à renforcer les mesures déjà prises par le président de la République contre la maladie à coronavirus. En dehors de port obligatoire de masque dans les lieux publics, Tarsis Kabatusula interdit les veillées mortuaires dans les maisons et les funérariums, les rassemblements de plus de 20 personnes, la tenue de culte avec plus de personnes que le place assise sans respect de gestes barrières. Les discothèques et boîtes de nuit ne doivent pas fonctionner durant 15 jours, indique l'arrêté de l'autorité provinciale, qui oblige également un contrôle pour toute personne en provenance de Kinshasa ou d'ailleurs. Les contrevenants à ces mesures, qui interdisent également un certain nombre de personnes dans les transports en commun, seront obligés de payer les amendes. Compte tenu de l'évolution de la situation liée à la maladie, ces mesures peuvent subir une modification, souligne le gouverneur intérimaire. Signalons que c'est dans la ville de Kananga où la division provinciale de la santé indique avoir enregistré le plus grand nombre de cas. Le territoire de Luza vient en deuxième position. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et au Tanganyika, la coordination de lutte contre la propagation du coronavirus s'est dit coincée dans la ville de Kalemie. Difficile de valider les alertes afin de contenir l'expansion de cette pandémie. La province est entourée des régions qui ont notifié des cas positifs de cette pandémie. La lutte contre le coronavirus se poursuit dans cette province. Mais comment s'organise la coordination provinciale pour mener cette lutte? Je vous propose d'écouter la réponse du docteur Adalbert Ngouadé, coordonnateur provincial de la lutte, au micro de François Xavier Mibé.
Il faut se dire que la surveillance épidémiologique est déjà décentralisée au niveau des zones de santé. Chaque semaine, il y a la zone de santé, où toutes les 11 zones de santé du Tanganyika nous envoient leur rapport épidémiologique. Parfois, c'est quelques alertes qui sont envoyées. Lorsque investigué, on arrive à réaliser que ce ne sont pas des présumés cas de COVID-19. Mais après investigation, on n'arrive pas à valider les alertes. Souvent, ce sont des alertes qui ne sont pas validées, qui peuvent tomber. Nous sommes un peu dans cette petite crainte-là, que peut-être certains cas peuvent passer entre les maillons de nos filets, puisque nous n'avons pas de laboratoire ici au niveau du Tanganyika. Ne fût-ce que du côté voyageur, on peut exiger le test pour ceux qui voyagent, puisque ceux qui quittent Kalemie partent sans test. Ou ceux qui arrivent au niveau de Kalemie sans test, on ne sait même pas les mettre en quarantaine, puisque la prise de température n'arrive pas à relever la fièvre, qui constitue notre signe principal dans la surveillance au niveau des postes de points d'entrée.
Dans les grands équateurs, les jeunes professionnels de la quatrième vague revendiquent l'amélioration de leur situation salariale. Une année après leur mise en service, ils attendent toujours leur salaire, d'autres leur affectation. Pourtant, ces jeunes licenciés, pour la plupart, ont été recrutés et formés par vague depuis 2010 par le gouvernement congolais en vue du rajeunissement de la fonction publique avec l'appui de la Banque mondiale. Leur syndicat a adressé à ces sujets la semaine dernière un mémorandum au vice Premier ministre, ministre de la fonction publique. C'est ce que nous explique en Mbandaka Paul Richard Malengela.
Comme les 704 agents de troisième vague affectés dans l'administration centrale, les 1000 agents de la quatrième vague ont été commissionnés en juillet 2020. Ceux-ci travaillent alors au sein des services déconcentrés dans les 28 provinces du pays, particulièrement dans les ministères pilotes de la fonction publique, du plan, du budget et des finances. De ces 1000 nouveaux agents, 195 sont affectés dans la Chapa et le reste du Grand Équateur. Mais ils vivent sans salaire ni prime et se disent abandonnés. César Bafé Bassambo, leur porte-parole à Boindé, explique.
Nous sommes la quatrième vague. Il y a eu les trois premières vagues qui sont payées, ils ont les salaires, ils ont les primes, mais jusqu'à présent, nous sommes en train de souffrir, notre situation n'est pas encore régularisée. Il y a le barème qui est appliqué aux trois premières vagues, soit appliqué également à la quatrième vague, parce que nous devons être traités au même pied d'égalité.
Rappelons que depuis le 21 juillet dernier, le coordonnateur du collectif national des agents jeunes professionnels, Frédéric Ibirindoa, a adressé un mémorandum au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Ce document de 18 points revendique donc l'intégration effective de ces agents de la quatrième vague, mais aussi le paiement de leurs primes de performance au même titre que ceux des trois premières vagues. Bondaka, Paul Chamalingué, la Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le ministre de l'Aménagement du Territoire lance lundi à Kinshasa le projet dénommé « Repensons à nos villages, villes et territoires ». À travers ce projet, explique le ministre Guy Luando, les Congolais sont invités à revenir au sol afin de mener des activités de développement. Ce programme vise à mener des actions d'investissement des Congolais résidant au pays et à l'étranger. Ces propos ont été recueillis par Billy Valutumba lors d'un point de presse.
Revit, c'est une campagne de sensibilisation de la recherche identitaire pour que chacun prenne en compte l'aspect de rentrer chez lui, dans son village, dans sa ville, parce que la création, la reconstruction, la rénovation des villes, c'est aussi une des attributions qui revient à notre ministère au regard de l'ordonnance portant attribution des ministères. Mais ils ne vont pas aller construire n'importe comment. Il faut qu'il y ait un suivi en amont à travers un schéma qu'ils doivent suivre et que tous les sectoriels doivent concourir pour que on peut délivrer les certificats d'enregistrement sur un bâtiment qui a été construit sur base d'un plan national, sur base d'un plan local, dans le cadre d'une gestion harmonieuse de notre espace physique. Nous voulons renvoyer la flèche vers le village, vers le territoire. Pourquoi pas avoir dans nos villages, sur base d'un schéma, un petit centre de santé, un petit hôpital, une petite église. C'est ça l'essence des Revit. Pourquoi pas avoir un guichet de banque où quelqu'un peut tirer l'argent. C'est en fait ça l'idée de la campagne des Revit. Comment tu peux avoir le même service ici à Kinshasa, dans ton village, dans ton territoire, dans ta ville. Et ça, c'est le rôle de l'aménagement du territoire.
Rappelons que le lancement de ce projet à Kinshasa intervient au lendemain de la fin du séminaire gouvernemental au cours duquel le président Félix Tshisekedi et le premier ministre Samalou Kondé ont recommandé à chaque ministre d'initier des actions d'intérêt communautaire pour une matérialisation du programme d'action du chef de l'État. Direction le Nord Kivu où la composante bonne gouvernance de la société civile salue la tenue à Kinshasa du séminaire du gouvernement pour Étienne Kambalé, membre de cette structure citoyenne. Cet exercice d'auto-évaluation vaut son pesant d'or parce qu'il permet non seulement de relever ses forces et ses faiblesses, mais aussi de rendre compte au peuple congolais sur sa gestion. Il rappelle cependant les observations qui se font quotidiennement dans la gestion des institutions du pays, notamment les dépassements budgétaires et les planifications redondantes des investissements. Il est au micro de Sifa Magourou.
C'est la première fois qu'on observe une formation comme celle-là. Mais nous avons des inquiétudes par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. Nous avons vu qu'il y a vraiment des dépassements énormes à ce qui concerne la plupart des ministères, la plupart des institutions. Nous pensons que si au moins ce gouvernement ne s'amende pas par rapport aux dépassements budgétaires, et cela ne va pas aider à ce que les partenaires de la République démocratique du Congo nous considèrent comme un État sérieux. Mais aussi, nous aimerions connaître la planification, qu'il n'y ait pas une planification redondante à ce qui concerne les investissements. Nous attendons de temps en temps des achats de véhicules. Chaque année, on achète des véhicules par certains ministères ou bien des institutions. Et pourtant, ces moyens devaient servir à autre chose. Mais aussi, nous aimerions savoir chaque province, les moyens qui sont alloués à cette province soient réellement décaissés. Nous pensons que nous avons droit d'avoir des éléments de réponse sur des préoccupations qui concerne notre vie.
Étienne Kambalé a également suggéré au gouvernement de mettre l'accent sur la redevabilité dans l'élaboration et l'exécution du budget du gouvernement et de tenir compte des préoccupations de la base. Réaction de la plateforme politique Lamouka à la sollicitation du bureau de l'Assemblée nationale de désigner des membres pour la CENI. Dans une déclaration faite samedi dernier à Kinshasa, le secrétaire général du parti Nouvel Élan, membre du présidium de Lamouka, affirme qu'ils ne peuvent pas faire partie de ce bureau. Il ajoute que, selon sa plateforme, il n'y a pas eu de consensus sur les réformes institutionnelles. Blanchard Bongomba le dit à Paul Matendo.
Nous ne pouvons pas désigner les animateurs tels que le veut Monsieur Mbosoko Diampwanga dans sa correspondance. Déjà, il faut relever deux éléments dans ce que Monsieur Mbosso écrit dans sa lettre. Premièrement, il nous qualifie de l'opposition parlementaire. Nous ne sommes pas, en tant que Lamouka, une opposition parlementaire, moins encore républicaine. Nous sommes une résistance. Deuxième chose, la démarche qui a été entreprise pêche sur deux éléments. L'élément de forme, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus dans le cadre de l'élaboration ou de la planification de ces réformes. Mais deuxième chose sur le plan de fond, c'est que nous ne sommes pas d'accord autour de la composition même de ces bureaux. Nous souhaitons que ces bureaux soient dépolitisés, composés essentiellement des acteurs de la société civile.
Actualité internationale.
Au Nigeria, 28 des 121 élèves qui ont été enlevés dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Ces élèves ont été libérés hier dimanche après-midi par les kidnappeurs. Le 5 juillet dernier, souvenez-vous, les ravisseurs étaient entrés au lycée Bethel Baptiste dans la ville de Damichi au nord du pays pour y kidnapper une centaine d'élèves. Les familles espèrent que des autres élèves seront libérés dans un proche avenir. Wendy Sherman, le numéro 2 du département d'État américain, est arrivé hier dimanche après-midi dans la ville de Tianjin, au nord du pays, où elle rencontre ce lundi son homologue chinois Xi Feng. Les deux responsables ne s'étaient pas vus depuis la visite de John Kerry à Shanghai en avril. En prélude, Pékin a demandé aux États-Unis de cesser de diaboliser la Chine.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable de l'Association des psychologues pour le bien-être de la population. Jacques Nsingiyumva parle des conseils pour respecter psychologiquement, rester psychologiquement fort pendant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus où la population de la ville de Goma au Nord Kivu vit dans l'angoisse de la troisième vague de cette pandémie. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Jacques Nsingiyumva, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
À cette période de Covid-19 à Goma, comme psychologue, quel appui vous pouvez donner aujourd'hui?
Actuellement, toute la population, non seulement la population de Goma, mais plutôt la population congolaise ou la population mondiale, est affectée par ce virus Covid-19. Il y a les gens qui ont perdu leurs camarades ou leurs collègues de service, il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, et actuellement, tout le monde est angoissé, stressé. Et cette angoisse amène la population à un traumatisme.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se retrouve dans ces situations que nous vivons actuellement à Goma, cette crise, cette angoisse, cette peur un peu générale?
Étant donné que la population en général traverse une période de détresse psychologique, d'angoisse et de tristesse liée à la COVID-19, et que cette population se trouve toujours confrontée à une perte de repères, des croyances, des sentiments de dépendance et d'abandon qu'il faut traiter d'une manière primordiale et urgente. Alors là, nous demandons à cette population de faire la verbalisation de l'expérience vécue qui permet au sujet de se dégager de la détresse ou du trouble psychiatrique en gestation. Et pour ce faire, il convient donc d'inviter les victimes à parler de leur expérience vécue sans leur donner d'autres consignes que de dire ce qu'ils ont envie de dire et de parler exactement ce qu'ils ont ressenti plutôt que de raconter ce qu'ils ont écouté, attendu ou vu.
Quand vous demandez à la population de parler, d'échanger, par exemple dans une famille, si on est affecté, on parle en famille ou obligatoirement on doit parler à quelqu'un d'extérieur, un psychologue?
Dans cette situation de crise comme celle-ci, les psychologues sont mieux placés à répondre à toutes les préoccupations possibles qui sont liées à cette pandémie de COVID-19. Les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi les psychologues ou c'est qu'un psychologue. Mais un psychologue, c'est quelqu'un qui est là, qui aide les gens évidemment de s'accepter et afin qu'ils puissent aussi comprendre ce qu'il est. Nous sommes de jeunes, nous avons fini en psychologie dans des différentes universités, nous sommes arrivés à mettre en place une association de psychologues pour le bien-être de la population. Nous sommes dans le quartier Majengo, avenue Buisha, en face de la Maison Blanche numéro 23. Celui qui a besoin d'une intervention psychologique, il peut passer toujours, nous sommes là en permanence pour l'aider à bien comprendre cette crise. Les numéros de téléphone, c'est 097 24 77 846.
Alors, Jacques Senghiumva, est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner à une personne qui se retrouve en difficulté, des astuces que lui-même peut faire déjà à son niveau pour pouvoir traverser cette période?
Pour qu'une personne soit psychologiquement forte pendant cette période de COVID-19, il doit d'abord récupérer sa rationalisation, c'est-à-dire comprendre cette pandémie avec sa raison, avec son intelligence. Maintenant, pour que cette personne soit forte, il doit prendre soin d'elle-même. Il doit aussi prendre soin de ses amis. Il doit prendre soin de sa famille. Prendre soin, c'est-à-dire se protéger contre cette pandémie. Pour que cette personne soit psychologiquement forte, il doit rester informé et respecter les conseils des experts pour lui aider à évaluer avec précision son risque de tomber malade. Il faut qu'elle suive les consignes de santé et de sécurité émises par l'OMS et le gouvernement congolais. Il faut aussi faire un usage mesuré des informations partagées par les médias et les réseaux sociaux. Mais aussi une consigne pratique, il faut méditer pendant son état d'isolement. Cette méditation permet d'apaiser ses angoisses et les stress. Mais aussi il faut faire des exercices de gestion des colères. C'est-à-dire dans la période que nous vivons, bon nombre de situations peuvent être source de colère. La COVID elle-même, il y a aussi les réponses comportementales ainsi que les politiques officielles. Maintenant, il faut aussi faire des sports adaptés à son état de santé. Et en fait, il faut prendre soin de soi, c'est-à-dire s'habiller et aussi se laver régulièrement.
Jacques Senghiumva, je rappelle que vous êtes responsable de l'association des psychologues pour le bien-être de la population à Goma. Merci.
Merci.
Jacques Senghiumva était l'invité de Radio Okapi, interrogé par Rosalie Zawadi, et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Élisée Tshikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Erung Mouchi. Je retrouvais ce journal sur www.radiookapi et sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi.